Je voudrais commencer par deux citations de Blaise Pascal que j'ai découvertes ce matin en lisant la lettre du pape François sur Blaise Pascal. Une très belle lettre que je vous recommande. Blaise Pascal, dans ses pensées, dit « L'Église a eu autant de peine à montrer que Jésus-Christ était homme, contre ceux qui le niaient, qu'à montrer qu'il était Dieu, et les apparences étaient aussi grandes. » C'était aussi difficile de montrer qu'il était Dieu que de montrer qu'il était homme. Et puis un peu plus loin, dans ses pensées, il dit aussi « Ce Dieu-là n'est autre chose que le réparateur de notre misère. Ainsi, nous ne pouvons bien connaître Dieu qu'en connaissant nos iniquités. » Je vous laisse cette citation-là, qu'on pourrait éventuellement discuter, on pourrait discuter de sa portée, mais deux citations que je trouvais pertinentes pour le topo de ce soir sur Jésus-Christ. Et aussi en guise d'introduction, je voulais vous dire que quand j'ai eu ces cours-là au séminaire, à chaque fois qu'on va parler des hérétiques dont je vous ai parlé, à chaque fois qu'on présentait leur pensée, je me disais « mais ça, c'est ce que je crois ». Puis ça c'était l'hérétique. Je me disais « c'est raté, alors c'est pas du tout ça qu'il faut croire ». Donc voilà, et petit à petit, en fait, j'ai découvert que d'hérétique en hérétique, je corrigeais ma position et que la position que l'Église avait développée en réponse à toutes ces hérésies, en fait, était à la fin beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus belle et beaucoup plus fine. Mais c'est pas parce qu'on parle d'hérétique qu'on parle de gars qui n'ont pas de tête, pas de cerveau et qui sont juste bons à raconter des bêtises. En fait, c'est plus subtil que ça, vous allez voir. Et peut-être que vous aussi, vous allez vous reconnaître dans tel ou tel travers dans lequel eux sont tombés. Ce sont des choses qui arrivent, vous en faites pas. Le but, c'est juste de ne pas y persévérer. Bon, donc Jésus, Jésus-Christ, on est devant un mystère. Donc le but de ce topo-là, c'est pas tellement de vous faire saisir Jésus-Christ que de vous donner les grandes lignes de fuite du mystère. Mystère que vous allez sans cesse, sur lequel vous allez sans cesse revenir, en fait. Voilà. Des grands axes, des grandes lignes qui permettent de se dire « Ok, là, je pense que j'approche, enfin, je suis dans la bonne direction pour approcher du mystère de Jésus. » Mystère que vous n'aurez jamais complètement saisi. Et je dis « vous », c'est à vous qui m'inclut, enfin, on est d'accord. Hein. Jésus. Jésus, Joshua, en hébreu, ça signifie « Dieu sauve », vous le savez peut-être. C'est tout un programme, en fait, ce nom. D'autant plus que le Joshua de l'Ancien Testament, tout va bien avec cet accident liquide. Donc, Joshua, quand on parle de Joshua à un hébreu du temps de Jésus, le premier auquel on pense à ce moment-là, c'est un certain Josué. Voilà, ça va bien se passer. C'est un certain Josué. Joshua, c'est le même mot, le même nom. Et vous savez qui est Josué ? Josué, le disciple de Moïse qui fait entrer le peuple hébreu dans la terre promise. On est quand même sur, vous voyez, du symbole, c'est pas n'importe quoi. Josué fait entrer le peuple hébreu en terre promise, le sauvant définitivement des Égyptiens et le protégeant des peuples environnants en conquérant la terre promise. Du coup, se pose la question, c'est où est-ce que Jésus nous mène, lui, si c'est le nouveau Josué ? Eh bien, pour répondre à cette question, je crois que c'est important de comprendre qui il est, comment ça marche en lui. Et donc reprenons avec les disciples la vie de Jésus. Les disciples voient en Jésus quelqu'un d'extraordinaire. Les miracles qu'on nous rapporte manifestent qu'ils ont perçu qu'il savait faire des choses que tout le monde ne savait pas faire. Jésus est troublé ce soir, le pauvre. Voilà, donc, bref, les miracles de Jésus font très vite parler de lui et on le considère comme un prophète. À minima, vous avez en tête ce passage où on dit pour les gens qui suis-je, et les gens disent souvent c'est un prophète. Mais s'il est reconnu globalement comme ayant un lien particulier avec Dieu, ses disciples vont le reconnaître, eux, comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Ça, c'est une référence facile à retenir. Matthieu 16, 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais, même s'ils saisissent ça, ils vont quand même avoir du mal, eux aussi, à entrer dans la compréhension de ce que cela signifie réellement. Ce que cela signifie réellement, c'est détaillé au catéchisme de l'Église catholique, dans les numéros 464 et suivants, dans lesquels vous retrouverez pas mal d'éléments que je vais vous donner ce soir. Donc, comment ils creusent ? Eh bien, d'abord, c'est après la résurrection et la Pentecôte que les disciples vont annoncer que Jésus est mort et ressuscité. Ils vont donc annoncer que Jésus, c'est le Messie, le Sauveur qu'Israël attendait. Mais, disant cela, ça va être quand même assez compliqué pour eux de formuler comment ça s'articule en lui cette dimension humaine et cette dimension divine qu'ils ont perçue. Mais il y a une chose dont ils sont sûrs, c'est que Jésus nous sauve de nos péchés. Ça, c'est non négociable, c'est la chose dont ils sont sûrs. C'est-à-dire que Jésus nous remet en contact avec Dieu. Parce que le propre du péché, c'est de nous couper, de couper notre relation avec Dieu. Donc Jésus nous sauve du péché, c'est-à-dire qu'il nous remet en lien avec Dieu. Autrement dit, il permet à la vie de Dieu de circuler en nous comme elle le faisait librement avant le péché des origines. C'est cette conviction-là qui va permettre aux chrétiens ensuite de creuser petit à petit qui est Jésus et comment sont unis en lui, pardon, ça va être une hérésie, mais c'est pour commencer et essayer de faire comprendre au début, comment vont être unis en lui la partie divine et la partie humaine. Vous verrez à la fin de mon topo que cette phrase-là est à jeter aux orties, mais on va commencer comme ça. Ce qui est étonnant, c'est que au cours de la réflexion, c'est d'abord l'humanité de Jésus qui va être niée. On va d'abord dire non, Jésus, c'est pas vraiment un homme. Et c'est ça là la première grande hérésie qu'on appelle le docétisme. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste réexpliquer ce que c'est que ce mot hérésie, parce que je crois qu'il permet de bien comprendre en fait comment les hérésies ont aussi aidé l'Église à définir sa pensée. Le mot hérésie, ça vient du grec qui signifie choisir. Donc un hérétique, en fait, c'est pas quelqu'un qui invente des bêtises. Un hérétique, c'est quelqu'un qui choisit une dimension de la foi, qui met le paquet là-dessus, tellement qu'il en oublie les autres, en fait. C'est ça, un hérétique. Et c'est pour ça que leurs positions sont très fortes, en fait. Très claires, très solides. Mais pauvres, parce qu'elles oublient une partie du mystère chrétien. Et donc vous allez voir dans la suite comment les hérésies ont eu du mal, elles, à tenir le fait que Jésus soit et vrai Dieu et vrai homme. La première hérésie, donc, c'est ce qu'on appelle le docétisme. Je vais vous donner les mots, comme ça vous les aurez pour votre culture générale, vous pouvez les caler dans votre prochain dîner, mais l'essentiel n'est pas là. Donc première hérésie, docétisme, c'est une hérésie qui pense que Jésus n'est pas vraiment homme. Dieu a pris une apparence d'être humain. Il s'est déguisé, quoi. Voilà. L'idée de fond, c'est que Dieu est Dieu. Et s'il est Dieu, il ne peut pas se mélanger avec nous, vous voyez. Enfin, il est autre. Ce n'est pas possible d'avoir un quelqu'un qui vient au contact comme ça. Donc la seule chose qu'il puisse faire, c'est se déguiser. Un peu comme il se déguisait dans l'Ancien Testament quand il apparaît à Abraham en vrai, comme les anges prennent une apparence. Voilà, mais ils n'ont pas de corps, les anges. Ce n'est pas leur corps à eux. Voilà, ils se déguisent. Mais le problème, c'est que dans ce cas, en fait, sur la croix, ce n'est qu'une apparence d'homme qui est crucifié. Donc Jésus ne meurt pas vraiment. Jésus ne prend pas sur lui nos péchés. La mort de Jésus n'est qu'une simulation et la résurrection, elle, du coup, elle est vidée de son sens. Ok ? Donc nous promettre qu'on va ressusciter alors que lui, même lui, il n'a pas fait, on se dit qu'il y a un loup quand même. Oui. Et donc l'Église, en réaction à cette hérésie, a réaffirmé fortement que Jésus était bien homme. Okay, donc l'Église redit, attendez, on se réunit tous, on se met bien d'accord, Jésus, il est homme. Et donc forcément, il y en a qui vont pédaler dans ce sens-là très fort pour dire, il est homme, il est homme, il est homme, jusqu'à dire, il n'est que homme. Donc là, voilà, on barre de côté, et on développe une nouvelle hérésie, qui est opposée à la première, c'est ce qu'on appelle l'adoptionnisme. Jésus aurait été un homme adopté par Dieu, mais pas vraiment Dieu. Si Jésus est homme, il ne peut pas être Dieu. Encore une fois, parce que les deux ne peuvent pas se mélanger, c'est pas possible. Donc, si Jésus est vraiment homme, comme l'Église l'a dit, hein, on est fidèle à l'Église, l'Église a dit que c'est un homme, donc c'est un homme, dans ce cas-là, il ne peut pas être Dieu, donc qu'est-ce qui a dû se passer? Ben, il a dû être adopté par Dieu, comme d'ailleurs on le voit au baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Jésus le dit, Dieu le dit là, il aurait dû le dire avant en fait, si ça avait été vraiment, s'il était vraiment Dieu. Mais il le dit là, donc il l'adopte à son baptême. Et l'Église dit, ben, non en fait. Parce que si Jésus est un homme adopté par Dieu, alors, en fait, il ne possède pas en lui vraiment la vie divine. Il ne peut pas nous transmettre la vie divine qu'il n'a pas, puisqu'il n'est pas Dieu. Et donc, sa mort sur la croix, à ce moment-là, c'est un acte héroïque, c'est super. Ça nous sert d'un exemple, c'est un exemple extraordinaire pour nous, c'est vrai, mais ça ne nous rejoint pas. Ça ne change rien pour nous, en nous, en fait. Et donc là encore, l'Église a dû rééquilibrer la position pour affirmer que Jésus est vraiment Dieu. Il est donc vraiment Dieu et vraiment homme. Donc là, les chrétiens accueillent ça, et se disent, ok, comment ça marche maintenant, si c'est les deux en même temps? C'est un 1 plus 1, c'est un mélange, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous voyez qu'on creuse petit à petit ce qu'est Jésus. Et donc, pour essayer de tenir ces deux positions, comment il peut être vraiment Dieu et vraiment homme, l'hérésie suivante, ça va être l'arianisme, qui est développé par un certain Arius, au 3e siècle à peu près, et qui dit, bah, c'est facile, s'il est et Dieu et homme, bah, c'est que ça s'est mélangé. Ça fait, voilà, fait une sauce, c'est comme quand j'étais petit, il y avait des danettes chocolat vanille, vous savez, moi j'adorais les mélanger parce que c'était chouette. Voilà. Bon, donc c'est un truc un peu hybride. Voilà. Bah, Jésus, c'est une danette chocolat vanille mélangée, quoi. Bon. Pauvre Jésus. Voilà. Et puis, on sait bien, depuis qu'on fait des maths tout petit, on sait bien que 1 plus 1, ça fait Dieu. Donc s'il est et vrai Dieu et vrai homme, ça fait deux choses. Donc c'est pas possible. Ça va pas, il peut pas être 1. Voilà, donc, c'est facile. Ce qu'il a de divin, il le reçoit de Dieu. Ce qu'il a d'humain, il le reçoit de Marie. Ça se mélange, ça donne un seul être qui fait de lui une espèce de semi-dieu. Voilà. Il y a Dieu le Père, qui est Dieu, tout-puissant, qui est Dieu. Il y a nous, les êtres humains, puis au milieu, il y a Jésus qui fait le pont, parce qu'il est un mélange des deux. Mais cette compréhension est rejetée lors du concile de Nicée, en 325, car elle se heurte toujours en fait, au même problème. C'est que si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas nous donner la vie de Dieu. Et s'il n'est pas homme, bah, il ne nous rejoint pas. En fait. Ce qui lui arrive ne nous concerne pas réellement. Voyez. Et donc s'il y a un mi-chemin entre les deux, bon, bah, c'est sympa, ça peut être extraordinaire, mais le pont n'est pas fait, en fait. Voilà, donc l'analyse est rejetée, et il est affirmé que le Verbe, qui s'incarne en Jésus, est de même nature que le Père. Il est engendré, non pas créé. Si ça vous rappelle des textes de la messe, c'est effectivement quelque chose que vous êtes sur le point de comprendre que pourquoi certains dimanches on récite le symbole de Nicée, Constantinople. Nicée, où on a condamné Arius en disant voilà, Jésus est engendré, non pas créé.
Consubstantiel.
Voilà, on y reviendra sur le consubstantiel pour le topo sur la Trinité. Mais là, engendrer, pour bien comprendre ce que ça signifie, on va prendre un exemple. Il y a plusieurs parmi vous qui sont parents ce soir, et donc vous avez engendré des enfants. Okay. Par contre, vous avez créé un tableau, vous avez créé je ne sais pas quoi. La différence engendrer et créer, c'est qu'on engendre quelqu'un qui est comme nous, de même nature, on dirait, en termes techniques. Voilà. Un cheval engendre un petit cheval, un humain engendre un petit humain, mais un humain va créer un tableau qui n'est pas du tout la même chose que lui, en fait. Voilà. Donc Jésus est engendré de Dieu, ça veut dire qu'il est vraiment Dieu. Voilà. Il n'est pas créé comme on créerait quelque chose d'extérieur. Ça va là-dessus? Ok. Du coup, on va pouvoir basculer dans l'hérésie suivante. Ok, vous êtes prêts? Donc on a dit Jésus, vrai Dieu, vrai homme, très bien, mais ce n'est pas un mélange. Alors comment ça marche? Bah, du coup, ça va être un collage si ce n'est pas un mélange. Ok, on prend Dieu, on prend l'homme, tac, on colle, c'est pas mélangé, c'est nickel, c'est clean, c'est parius. Très bien. Et c'est pas bête comme idée, hein, parce que le gars qui développe ça, c'est quand même un certain Nestorius, patriarche de Constantinople. Ok, à l'époque, il y a quatre grands, il y a quatre papes, on peut presque dire ça comme ça, pour faire très simple. Ensuite Rome, et puis Constantinople, Alexandrie et Antioche. Ok, donc là, on est sur des théologiens niveau plus. Ok. Et donc, s'il arrive à dire une hérésie, c'est que derrière, il y a des raisons qui ne sont pas bêtes. Voilà. Mais n'empêche que ce n'est pas complètement équilibré. Si Jésus n'est pas un mélange de Dieu et d'homme, alors forcément, bah, ça doit être un collage, une conjonction de Dieu et de l'homme. Il est une personne humaine liée tellement intimement à la personne divine, tellement, il a tellement la volonté de faire ce que la personne divine en lui veut faire, que c'est comme s'ils étaient un. Ok, donc en fait, ils sont liés par l'envie de faire la même chose. Mais, ça, le problème, c'est que ça revient à dire que Dieu habite en Jésus simplement à la manière dont il habite un saint. Alors, du coup, c'est assez chouette comme position, parce qu'on comprend bien comment on pourrait ressembler à Jésus, mais en fait, le problème, c'est que ça ne fait pas de lui le sauveur du monde. C'est encore le même problème. Ça va contre l'affirmation de Saint Jean qui dit « Le Verbe s'est fait chair ». Saint Jean ne dit pas le Verbe s'est collé à une chair, ou c'est lié à une chair. Il est devenu chair. C'est beaucoup plus fort que l'affirmation de Nestorius qui est juste de dire il collabore très fort. Mais voilà, le problème dans la vision de Nestorius, c'est que l'union entre Dieu et l'homme reste extérieure à l'homme. Dieu ne va pas chercher l'homme au cœur de ce qu'il est. Ça va? Il ne peut pas le sauver au fin fond de ses tripes, si je peux le dire comme ça. Alors, voilà cette dernière grande hérésie dont je voulais vous parler. Ensuite, je vous passe en revue toutes les hérésies qui ont succédé sur les siècles suivants, parce que elles se sont toutes heurtées en fait aux mêmes écueils, qui sont que soit on efface ou on remplace une partie essentielle de Jésus, qui fait qu'il n'est plus vraiment humain, en fait. On imagine par exemple que son esprit est remplacé par l'Esprit Saint, on imagine que sa volonté est remplacée par une volonté divine, on imagine que, vous voyez, donc on extrait, on fait de la chirurgie, quoi. Hein. On coupe une partie et tac, on colle une partie divine à la place. Mais là, du coup, c'est plus vraiment un être humain. Donc, il ne nous rejoint plus vraiment. Ou alors, au contraire, eh bien, on imagine que l'humanité et la divinité sont toujours un peu extérieures l'une à l'autre, comme un collage. Si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, vous pouvez aller voir le catéchisme de l'Église catholique, les numéros 470 à 483. Il redétaille quelques hérésies dont je n'ai pas encore parlé là, et il vous montre comment, voilà, quelle partie on a imaginé remplacer, ou etc. Je voulais vous donner une clé de tout ça qui est un peu technique. Je vous l'accorde, mais je voudrais vous la donner pour que vous ayez quelques éléments et vous laisser du coup, vous avez le temps après pour mûrir tout ça. C'est un peu technique et je vais vous donner en un demi-paragraphe là quelque chose qu'il a fallu 600 ans à développer. Donc je l'ai pas mal compacté, ok. Donc on pourra en discuter après, mais je vais essayer de vous l'exprimer simplement. La difficulté de tous ces échanges autour de ce qu'est Jésus et comment ça marche en lui repose sur deux mots, le mot nature et le mot personne. Dire que vous êtes une personne, c'est dire que vous êtes unique. Ça va ça? Le mot personne désigne qu'il y a d'unique en vous. Par contre, dire que vous êtes de nature humaine, ça désigne ce que vous avez de commun avec tous les autres êtres humains. Ça va ça? Ok. Autrement dit, en vous, il y a votre nature, ce qu'on appelle votre humanité, et ce qui fait que votre humanité est unique, ce qu'on appelle votre personne. On peut même dire plus, je vais mettre des guillemets, hein, mais cette personne, cette chose qui fait que vous n'êtes pas un humain comme les autres, est désignée par l'expression personne humaine. Eh bien, c'est là que Jésus est différent de nous, en fait. Okay, vous êtes vous, ce qui fait que vous êtes unique, c'est une personne humaine, parce qu'elle. Voilà. Lui, Jésus. Ce qui fait qu'il est unique, qu'il est un humain unique, ce n'est pas une personne humaine, mais c'est une personne divine qui va venir s'implanter dans la nature humaine, dans le commun de l'humanité. Voilà. Vos cerveaux explosent là, c'est normal. Okay. Mais voilà, l'enjeu est là, c'est que Jésus est un être humain exactement comme nous, parce que sa personne, ce qui le rend unique, n'est pas exactement la même chose que ce qui nous rend unique, tout autant qu'on est. Alors, une fois qu'on a dit cela, il y a quand même plusieurs difficultés qui tournent autour des questions suivantes. Puisque l'homme change et que Dieu ne change pas, comment ça se passe en Jésus? Est-ce que Jésus a toujours compris qu'il était Dieu? Est-ce qu'il pouvait vouloir autre chose que ce que Dieu veut? Ok. Eh bien, pour y répondre, il faut se rappeler ce qu'on a dit sur la création les fois précédentes. La création, elle n'est pas Dieu. Et pourtant, elle existe quand même. Dieu la soutient à tout instant dans l'existence, mais elle conserve son autonomie propre. Eh bien, l'humanité de Jésus, elle n'échappe pas à cette règle-là. L'humanité de Jésus, elle a bien une intelligence qui lui est propre, une volonté qui lui est propre, et c'est ainsi que Jésus a pu grandir tout en étant Dieu, en fait, même si Dieu ne change pas derrière. Vous voyez, le monde change, mais Dieu ne change pas. De la même façon, l'humanité de Jésus peut changer sans que la divinité derrière ne change. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'à 6 ans, Jésus avait conscience d'être fils de Dieu au moyen de sa conscience d'enfant de 6 ans. À 12 ans, plus mûr, il avait une autre conscience de sa divinité, grâce à sa conscience de jeune de 12 ans. De même, son intelligence a compris au fur et à mesure qu'il était lié à Dieu, mais il n'a pas compris de la même façon, pas avec la même maturité, la même acuité, à 1 an, 6 ans, 12 ans, 20 ans, etc. Quant à sa volonté et à sa liberté humaine, il y a un moment où on voit bien qu'elles existent comme telles, c'est dans l'agonie à Gethsémani. Père, si c'est possible, cette coupe, c'est loin de moi. On voit que cette volonté humaine, elle résiste face à la mort, avant de dire, mais en fait non, ce qui est bon, c'est de faire ta volonté. Ainsi donc Jésus partage bien toutes les caractéristiques, toutes les caractéristiques fondamentales qui sont des nôtres en tant qu'humains. Mais il ne les habite pas, si je peux le dire comme ça, il ne les individualise pas comme nous. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un peu abstrait, et ça je l'accorde, c'est même carrément abstrait. Mais ça a une application qui, à mes yeux, est fondamentale, c'est que dans l'humanité de Jésus, rien n'est privé. Tout est commun. Voilà. Il n'y a pas de personne humaine, il n'y a qu'une nature humaine, il n'y a que du commun dans l'humanité de Jésus. Et donc tout ce qui se passe dans son humanité est mis en commun avec notre humanité. Au sens charnel en fait, du terme, physique du terme. Et donc il ne nous reste plus qu'à nous l'approprier personnellement. Il n'y a plus qu'à puiser dans ce pot commun. Ou pour prendre une autre image, si la vie de Dieu coule dans l'humanité de Jésus, elle coule forcément jusqu'à nous, puisque nous partageons son humanité. Or, vous imaginez bien que la vie de Dieu ne peut pas nous laisser indemnes. Si la vie de Dieu vient nous rejoindre, il va se passer des choses en nous. Elle nous transforme, elle nous recrée, comme on l'a vu la dernière fois sur Dieu créateur. Mais évidemment que cette recréation, qui nous remodèle petit à petit pour que la ressemblance avec Dieu soit de plus en plus grande, cette ressemblance que le péché a abîmée, cette recréation, il lui faut du temps. Parce que Dieu respecte notre condition temporelle. Il nous faut du temps pour grandir, il nous faut du temps pour croître, et donc il faut du temps pour nous guérir. Mais, dès que nous sentons en nous que quelque chose se débloque, que nous progressons dans la connaissance de Dieu, dans l'amour des autres, eh bien, on peut le prendre comme un signe que la vie de Dieu a transformé quelque chose en nous, qu'elle nous a recréé. C'est assez chouette, ça. Ok. Je suis un tout petit peu juste. Alors, quel est l'objectif de toutes ces recréations, de cette vie divine qui coule en nous grâce à l'humanité que Jésus a en commun avec nous? Cet objectif, c'est quoi? C'est que on ressemble de plus en plus à Jésus. Mieux que ça, si j'ose dire, c'est de nous faire ressembler à Dieu. Parce que si nous suivons Jésus, c'est pas seulement parce qu'il fait des miracles incroyables, ou alors parce que, comme je viens de le faire, on développe des théories sur lui extraordinaires, on peut s'aligner les neurones, un coup d'arguments théologiques et philosophiques, tous plus poussés les uns que les autres. Mais si on suit Jésus, c'est parce qu'il est ressuscité. Et c'est cet élément qui est fondamental, parce que c'est lui qui nous garantit que Jésus est animé par la vie même de Dieu. C'est parce qu'il est ressuscité qu'on se dit, en fait, en lui, la vie qu'il a en lui, c'est la vie de Dieu. La résurrection, c'est la clé de notre foi, parce qu'elle nous ouvre cette espérance. Nous aussi, nous sommes capables, en accueillant les transformations que Dieu opère en nous, de vivre de la vie même de Dieu. Et voilà, moi je trouve ça chouette, moi je vous le partage, mais c'est ça notre espérance quand même. Alors, ceci étant dit, cette résurrection, elle n'est pas un événement historique, au sens où il y aurait quelqu'un pour l'observer, la noter, nous en faire un compte-rendu. Il n'y a pas de témoin de la résurrection. Mais, néanmoins, il est quand même de notoriété publique que le matin, le tombeau est vide. Ça, pour le coup, c'est clair. La résurrection de Jésus, c'est donc un événement qui échappe à l'histoire, tout en ayant un impact évident sur l'histoire. Okay ? Elle n'est pas historique, mais l'histoire est changée par la résurrection. Et c'est pour ça qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ. Petite parenthèse, simplement, là, pour aussi distinguer deux mots, la résurrection n'est pas une réanimation. Jésus a réanimé Lazare, par exemple, qui a eu la chance de mourir une deuxième fois, lui, alors que Jésus, quand il ressuscite, il ne meurt plus. Vous voyez ? C'est ça la différence entre une réanimation, où on retrouve une vie mortelle, et une résurrection, où on est tellement transformé qu'on entre pleinement dans la vie de Dieu. Vous pouvez recreuser ça au numéro 646 du Catéchisme de l'Église catholique. Deux petits éléments peut-être pour conclure sur la résurrection, c'est que Jésus, on voit son corps ressuscité a des propriétés tout à fait uniques. Il peut apparaître dans des pièces qui sont fermées, il peut être à plusieurs endroits en même temps, il n'est plus soumis aux contraintes du temps et de l'espace une fois ressuscité. Vous avez tous en tête, je pense, ces récits après la résurrection, où on le voit en même temps avec les disciples d'Emmaüs et avec les 12 qui étaient en train d'attendre à Jérusalem, etc. C'est pas que du folklore, à mon sens. Je pense vraiment que ça a une signification importante, qui est que la résurrection, c'est pas une redite de notre vie terrestre. Ok. C'en est l'accomplissement. La vie éternelle, c'est vrai, elle a un lien avec notre vie terrestre, puisque Jésus peut apparaître. Mais notre vie éternelle n'est plus liée au temps et à l'espace comme elle l'est maintenant. Parce que la résurrection, tout simplement, c'est en fait l'entrée dans la vie de Dieu, et que Dieu, lui, il n'est pas dans le temps ni dans l'espace. Voilà. Voilà cette vie qui nous est donnée en Jésus. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme, non seulement pour nous parler, mais pour nous donner une vie nouvelle. C'est ce qui fait que Jésus est si important. Voilà. Il n'est pas seulement un exemple, il est vraiment celui qui nous donne la vie au sens matériel presque du terme. Et du coup, cette union en Jésus a quelque chose d'important, parce que quand on voit l'humanité de Jésus agir, on voit Dieu qui agit. Lorsqu'on voit prier, on voit comment dans la Trinité, le Fils s'adresse au Père. Et on comprend comment le Père parle au Fils. C'est pourquoi Jésus a cette place unique et irremplaçable pour nous les chrétiens. Et qui peut dire, nul ne va vers le Père sans passer par moi. Jean 14, 6. Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que pour lui que quand on voit agir, on voit Dieu agir. Sans hiatus, sans distance, en fait. Et puisque, en fait, ce qui lui arrive finira par nous arriver, si on nous ouvre, si on s'ouvre à cette vie, eh bien, nous aussi, nous sommes susceptibles de recevoir cette vie de Dieu, d'entrer dans cette vie de Dieu. C'est là que se trouve pour nous l'enjeu de la communion avec Jésus. Elle nous lie à Jésus, nous fait membre de son corps en un sens extrêmement fort. J'espère qu'on va réussir à sentir ça au cours de cet exposé. Et donc, nous donne de recevoir intégralement la vie qu'il habite, pas juste avec notre cerveau, mais avec tout notre être, en fait. Voilà tout ce que je voulais vous partager. Donc, deux choses peut-être à retenir. La première, c'est que dire que Dieu s'est fait homme, ça signifie qu'il s'est uni parfaitement, sans mélange ni séparation à l'homme. Et l'enjeu, c'est le suivant, c'est que Jésus peut pouvoir être le lien entre la vie de Dieu et notre vie, pour pouvoir nous communiquer vraiment la vie de Dieu et prendre sur lui nos péchés. Deuxième idée, Jésus et homme d'une façon un tout petit peu spéciale, qui lui permet d'avoir une humanité, un corps avec des guillemets, capable d'accueillir en lui tous les autres, le nôtre en particulier. Voilà. Voilà ce que je vais vous partager sur ce topo qui est spécialement dense et compact. Voilà. Je vous laisse 15 secondes pour remettre vos neurones en ordre de bataille, et on va passer à quelque chose de plus accessible pour vous laisser digérer un petit peu tout ça.